Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Olivia au micro, une maman française mariée à une Française vivant dans ce magnifique état qu'est la Floride aux États-Unis. Elle nous raconte sa procédure de PMA, procréation médicalement assistée, mais également celle de sa conjointe dans le but de bâtir ce qu'est aujourd'hui leur belle famille composée d'un petit aîné et d'une paire de jumeaux. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Olivia!
Salut Cindy!
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Mais je t'en prie, merci de me recevoir.
Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille?
Oui, donc moi c'est Olivia, j'ai 30 ans, je vis à Miami, donc avec ma femme Camille, et ensemble on a 3 petits-enfants.
Dont 2 jumeaux. Enfin, une paire de jumeaux, d'ailleurs,
voilà,
comme on dit.
Ça.
Oui, voilà, une paire de jumeaux.
Ouais, une paire de jumeaux.
Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française, à savoir, par exemple, où est-ce que tu as rencontré Camille?
Alors, Camille, je l'ai rencontrée en France, donc avant qu'on vienne s'installer aux États-Unis. Je l'ai rencontrée fin 2010.
Vous avez fêté vos 10 ans, ça veut dire, là?
Bientôt. Ce mois-ci, au mois de novembre, ouais. C'est, ouais.
Oh, trop ouais. Bien.
On passe un cap, ouais.
Oh, tu m'étonnes.
Donc, oui, on s'est rencontrés en France via une amie en commun. Pour moi, 2010, c'était une année un peu difficile parce que je venais de perdre mon père. Et je pense que cette année, ça s'est très bien terminé parce que Camille est arrivée sur ma route. Et ensemble, je pense qu'on a fait un beau chemin. Donc, en 2011, on s'est installé aux États-Unis, à Miami, en fait.
Ok, donc ça a été super rapide. Oui. Donc, vous êtes rencontrés, on s'est dit, tu sais quoi, la France, on s'en fout, on se casse.
Alors, en fait, ça n'a pas vraiment passé comme ça pour nous. Moi, les États-Unis, ça a toujours été un rêve, mais ce n'était pas du tout un projet que j'avais dans les médias, vraiment.
Ouais.
Comme pas mal de gens, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui rêvent des États-Unis, donc c'était le cas pour moi, mais je n'avais pas du tout vraiment d'idée de comment y aller, des visas, tout ça. C'était complètement flou et même inconnu pour moi à ce moment-là. Et Camille avait en fait un stage. De fin d'année d'études qu'elle devait effectuer à l'étranger. En vrai, elle a postulé à peu près partout. Et par chance, elle a eu une réponse pour un stage à Miami. Donc, elle ne m'en a même pas parlé au début. Et c'est quand ça s'est un peu concrétisé, après une interview sur Skype, qu'elle m'a parlé, voilà, j'ai certainement une offre à Miami. Est-ce que tu serais prête à me suivre? Alors, bah,
oh là là.
Évidemment, oui.
Oui.
J'étais super excitée de pouvoir y aller, même si je ne savais pas comment j'allais pouvoir y aller. Tu connais l'histoire de visa, etc.
Ouais, c'est un peu houleux. Bah, et donc, du coup, j'imagine que tu fais un peu comme... je me mets aussi dans le cas, hein, dans le tas de ces désespérés qui veulent absolument retrouver l'amour de leur vie aux États-Unis et qui cherchent le premier stage venu.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'y suis vraiment allée, pour le coup, au début, en touriste complet. Quoi.
Ouais.
J'ai pu aider à tout ce qui était installation, trouver un appartement, une voiture vraiment pas chère. On n'avait rien en poche, pour le coup. Voilà, vie d'étudiant. Et en plus, avec un niveau d'anglais qui était pas terrible pour ma part.
Ouais.
Très, très scolaire. Mais voilà, vraiment, je me suis rendu compte que ce qu'on apprend, c'est quasiment rien, quoi, à
ouais,
l'école.
Ouais, ouais. Donc, elle part en 2011, donc tu la suis, tu trouves un taf là-bas. J'imagine que ça se passe bien, étant donné que vous n'êtes jamais reparti.
Oui. Du coup, oui, c'est vrai qu'on est tombé un peu amoureuse de la vie ici, et sans vraiment se rendre compte, on s'est senti bien. Et comparé à la vie qu'on avait en France, même si c'est vrai qu'ensemble, en couple, on n'y a pas vécu très longtemps, juste
ouais.
quelques mois, parce qu'on est parti en juillet 2011 et donc on s'était rencontrés en novembre 2010. Mais on s'est senti bien en tant que couple gay. On n'était pas jugés, évidemment, on est tombé tout de suite. On était attirés par Miami Beach, donc le côté plage, etc.
Ouais.
Donc c'était hyper tentant d'être en vacances tous les week-ends, de se sentir bien dans la communauté LGBT. Donc ça a été pour nous, on n'avait pas du tout envie de repartir, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Mais alors, donc, du coup, j'imagine que un de vos stages a dû mener à une embauche et que petit à petit, vous êtes restés et que l'une s'est mariée pour pouvoir se greffer au visa de l'autre. Enfin, des cheminements comme ça.
Exactement.
Ouais.
Oui, ça s'est passé comme ça. Avant, en fait, quand on est arrivé, le mariage n'était pas légal en France ni aux États-Unis. Et pendant un moment où on était un peu en galère avec les visas, la loi sur le mariage est passée en France et inattendu, c'est passé aussi aux États-Unis. Personne vraiment s'y attendait. Et donc, pour nous, ça a été génial. Ça nous a débloqué une situation assez compliquée parce qu'on se posait la question de savoir si on allait devoir rentrer ou pas, étant donné que moi, je ne pouvais pas rester. C'était un peu compliqué quoi, à ce moment-là. Et oui, grâce à tout ça, grâce au mariage, on a pu rester.
Mais je crois que si je me souviens bien historiquement, c'était quand même un beau projet d'Obama de faire passer le mariage pour tous aux États-Unis. Et que comme le Sénat ou la Chambre des représentants a switché, il avait du mal à faire passer la loi en rigueur.
Mais exactement,
c'est bien, ça a été un bel accomplissement. Je me rappelle l'effervescence par rapport à ça. Donc, c'est génial. Donc, du coup, j'imagine que vous êtes mariés ici, en Floride ?
Et non, en fait, on s'est mariés en France. Oui, parce que pour nous, on avait vraiment tous nos amis qui étaient en France, notre famille. D'accord. Pour nous, c'était vraiment important de le faire là-bas. Et en plus de ça, ça avait plus de sens pour nous de le faire en France.
Ok. Et alors, à quel moment arrive une volonté de votre part d'élargir la famille ?
Alors, pour moi, c'est tôt quand même. J'ai toujours eu le désir d'avoir des enfants, donc c'était quelque chose que j'avais en tête, même si, encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment ça allait être possible. La PMA, c'était flou, etc. Donc, on se posait des questions.
Surtout si tu viens de France où, globalement, on te met des bâtons dans les roues à tous les niveaux, quoi.
Oui, exactement. Donc, on connaissait personne non plus en France qui avait eu recours à la PMA, donc c'était... Voilà, quand on a commencé à y penser, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Par chance, on est tombé sur un petit groupe qui se passait à Miami Beach de discussion sur justement sur la PMA et la GPA aussi. Et ça tombé à pic, j'ai pu nous inscrire et dire à Camille, coucou, ça t'intéresse? ça a commencé comme ça vraiment. Et là, on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur comment se passait la PMA aux États-Unis. Et on a vu que ça allait être un process hyper facile, dans le sens où c'était ouvert pour nous comparé à la France.
Oui. Oui, alors j'aimerais bien qu'on reprenne un peu le parcours de PMA. Au moins pour un couple homosexuel, à savoir un peu, déjà, je sais que ça va paraître complètement bête comme question, mais déjà, comment vous décidez à savoir qui se lance la première, ou est-ce qu'il y a une volonté de l'une d'y aller en premier par rapport à l'autre? Comment ça se passe?
Alors, c'est une très bonne question, oui, en effet, c'est vrai que... En ayant deux ventres, un ventre de chaque côté, on se pose les questions à chaque fois. Mais pour nous, à l'époque, Camille étudiait, en plus de travailler à plein temps. Et moi, j'avais toujours le désir d'avoir un enfant, je me sentais prête. Donc vraiment, je crois qu'on ne s'est pas posé la question. On savait que ça allait se passer comme ça et que plus tard, ce serait elle qui porterait le second enfant.
Ok.
Donc pour nous, c'était directement, on n'avait pas eu la question à se poser en fait.
Ok, donc tu te lances la première dans la procédure. Alors, comment ça se passe pour un couple homosexuel pour démarrer une PMA? Qu'est-ce que, dans les grandes lignes, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais donc déjà, j'imagine que tu vas utiliser ton propre œuf.
Oui.
Donc du coup, il nous faut la partie mâle.
Voilà.
Comment ça se passe alors? Est-ce que tu vas à une banque de donneurs de sperme, c'est ça?
Alors c'est ça. En fait, grâce à la petite discussion qu'on avait eue, ce groupe avec qui on avait parlé, on avait appris pas mal de choses. On avait eu les contacts d'une banque de sperme, effectivement, qui est basée en Californie. Je pense que la plus connue aux États-Unis. Donc ça nous a bien aidé. Et entre le temps où on se dit qu'on aimerait avoir un enfant et qu'on commence vraiment les procédures, moi j'avais déjà été sur le site, on avait essayé de repérer des donneurs qui nous plaisaient. Il y a plein de critères pour les choisir, honnêtement c'est complètement ouvert, tu vois des photos d'enfants, tu les entends parler.
C'est
vraiment énormément de choses sur eux, c'est impressionnant, presque plus qu'on connaissait l'une sur l'autre. Donc on a déjà commencé par choisir notre donneur, même si on n'allait pas commencer tout de suite.
Alors tu choisis un donneur?
Alors, il y a tellement de... Tu peux les filtrer comme sur tes sites d'achat, quoi. Nous, on avait... Enfin, il n'y avait pas de photo à l'époque de lui à l'âge adulte, et ça nous va très, très bien. Je sais que maintenant, ils le font. On ne l'a pas choisi spécialement pour ses critères physiques, honnêtement. C'était parce qu'il ne ressemble ni à l'une ni à l'autre. C'était pour... plutôt, on voulait qu'il soit plutôt sain, qu'il ait un rythme de vie plutôt sain, qu'il n'ait pas de problèmes médicaux importants, même si normalement tu ne peux pas donner si tu as des problèmes de santé, mais dans sa famille, etc., famille proche ou les cousins. Donc c'était vraiment le premier critère pour nous. Et puis après, dans son profil, il y avait tellement de choses qui matchaient avec notre vie à nous qu'on a eu un coup de cœur pour celui-ci et tout de suite...
J'espère que vous n'avez pas pris le critère comptable. Hein.
Alors, il a fait... il a fait de la comptabilité. Et ça,
oh non.
Ça, comme Camille, en fait, du coup, ça fonctionnait. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il ait faite.
Et alors, attends, j'ai une autre question qui va paraître complètement bête. Mais est-ce que le prix diffère en fonction de l'individu ? Ou alors, est-ce qu'ils sont tous au même prix ?
Alors, pas de l'individu, mais selon les types... ça s'appelle en gros une fiole ou des paillettes en France. Ça change si jamais tu veux un donneur qui est anonyme, enfin complètement anonyme, ou ça s'appelle open donor. Et c'est là, si quand nos enfants auront atteint la majorité, s'ils veulent être en contact avec le donneur, que ce soit même qu'une fois, il a l'obligation de répondre au moins une fois à la demande de l'enfant.
D'accord.
Donc voilà, c'est ça, les donneurs, le open donor.
Donc vous en avez pris un open donor ou
alors,
un
semi donneur, oui, c'était pas un choix en fait de au départ, mais voilà, comme il y a un coup de cœur pour celui-ci, bon, il y était, et finalement on est content de notre choix, ça nous convient aussi très bien.
Et alors quelles options s'offrent à vous une fois que tu as ta petite fiole en main? Est-ce que on part sur une fécondation entre guillemets, enfin régulière, ou est-ce qu'on, enfin il y a quoi comme, est-ce que tu peux me donner les concepts, parce que je suis pas très bien informée sur le sujet.
Alors en gros, les deux solutions qu'on avait, c'était une insémination classique. Donc voilà, comme tu dis, quand tu as la fiole, on fait juste une insémination classique, donc qui peut être aidée par un petit traitement hormonal à côté pour aider l'ovulation, etc.
Okay.
Et puis sinon, donc la FIV.
Fécondation in vitro.
Exactement, fécondation in vitro. Et là, bon, c'est un process beaucoup plus lourd. Et pour moi, avec l'analyse de mon dossier par mon docteur, a priori, j'avais vraiment pas du tout besoin de passer par la FIV. Tout était nickel sur mon dossier, le donneur avait pas de problème. Des femmes étaient déjà tombées enceintes grâce à lui, donc a priori, tout allait bien se passer. Donc on part sur une insémination classique qui coûte évidemment beaucoup moins cher qu'une FIV.
On est parti sur quel budget du coup pour vous? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un budget à mettre en place avant de démarrer les procédures.
Alors oui, on savait à peu près combien ça allait nous coûter. Déjà, une fiole de sperme, ça coûte à peu près 900 dollars avec les frais d'envoi, parce qu'ils viennent de Californie.
Ouais,
c'est pas donné. Et puis donc c'est forcément une par cycle. Et puis le cycle en soi, nous on avait choisi de le faire, et en fait on connaissait pas trop les options, mais de le faire donc avec le traitement hormonal à côté. Donc je vais prendre des cachets, j'avais des patchs, tout ça pour aider l'embryon à adhérer, puis déjà avoir pour commencer un ou deux ovules, en tout cas assez matures pour le jour de l'insémination. Donc tout ça nous revenait à peu près à chaque insémination autour de, je crois que c'était à peu près 2 500 $.
La vache. Et ça, c'est pas cher par rapport à la FIV.
C'est pas cher par rapport à la FIV. Donc certains ont la chance d'avoir cette partie remboursée par leur assurance. Nous, c'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc on connaissait à peu près le budget. Mais bon, quand il va, ils te disent que c'est tant. Et tu sais bien, quand tu ressors avec les taxes, etc., c'est toujours le prix.
Un peu plus. Voilà. Mais alors donc du coup, comment ça se passe à la procédure? Tu vas plusieurs fois par mois dans le centre?
Enfin, tu peux faire ça. Ça s'appelle une clinique, en fait.
Okay.
Et tu y vas. Donc, ils proposaient la possibilité de faire deux inséminations le même mois, deux jours d'affilée. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré ton ovulation, tu y vas pour une première insémination et tu retournes le lendemain. Mais évidemment, ça a un coût. Et le pourcentage après de réussite n'était pas non plus élevé si tu faisais une deuxième fois. Enfin, pas beaucoup plus élevé que le faire qu'une fois. Et encore une fois, ça veut dire que tu devais réutiliser encore une fiole en plus, donc encore 900, plus encore l'insémination. Pour nous, on s'est dit non, on va pas le faire comme ça, on va juste faire une fois par mois et ça suffira.
C'est bien, ça laisse un très beau message aux hommes. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
Oui, tout à fait.
Donc, quand tu veux essayer de faire un enfant, ça sert à rien d'y aller 40 fois dans la semaine.
Et donc, ouais, en plus, on a tous les chiffres, ils te donnent tout, la mobilité, etc. Enfin, t'es là, waouh, est-ce qu'un million ça va suffire?
Tu sais même pas trop. Attends, dans la petite fiole, il y a un million de petites gamètes qui.
Je te promets que tu vois rien du tout. Hein. C'est microscopique. Enfin, je veux dire, la quantité,
c'est très fine.
Tu te dis, incroyable. Mais sérieusement, je vais tomber enceinte avec ça.
Donc oui, j'imagine que c'est le cycle d'une femme normale, t'as tes règles, t'attends les 10-12 premiers jours, tac tac, t'arrives en clinique, ils te disent ok, t'es pas encore trop chaude, reviens dans 2-3 jours.
Oui, en fait, ils vérifient avant, non mais ils vérifient si la taille de ton ovule, de quel côté il est, etc. Ouais. Ils te disent bon bah maintenant, chez toi, tu dois faire un test d'ovulation. Quand ça ressemble à un test de grossesse, tout simplement, et te disent quand c'est positif, mais alors tu es toujours là tous les jours en panique. Est-ce que c'est assez la couleur ou pas? Tu sais vraiment jamais. Tu as l'impression de rater, du coup, si tu rates, c'est la cata. Donc, tu as vraiment la pression quand même de tout ça. Et une fois que tu as ton positif, tu appelles et tu dis ok, demain matin à telle heure, à 7 heures, tu dois être là et on fait l'insémination. Donc, tu dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop, pas trop tôt? Enfin, c'est un peu.
Du coup, tu prenais aussi ta température, parce que je crois qu'il y a aussi cette technique-là où je crois que la température de ton corps augmente quand tu es en train d'ovuler.
Oui, je l'ai fait, mais à la fin, spoiler alert, j'ai fait plusieurs cycles. Donc, sur mon dernier cycle, je l'ai fait. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. On n'a pas vu.
C'est pas une science exacte, en tous les cas, que ce soit les tests ou ça, c'est compliqué, quoi. Donc, et tu nous disais aussi qu'ils te bourrent d'hormones en parallèle?
Oui, alors en fait, je prenais des cachets qui permettent d'avoir des ovules de bonne qualité, matures, etc. Parfois, tu en as plusieurs aussi, selon la dose. Donc, j'étais partie sur une dose a priori faible. À côté de ça, j'avais des patchs pour avoir un endomètre assez épais, etc. Ça, pour l'instant, c'était pas énorme, mais bon, il y avait d'autres cachets à côté qui me faisaient prendre. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez troublant parce que tes hormones sont un peu en vrac.
Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu te sens, toi, du coup, pendant toutes ces périodes d'essai, entre guillemets
Au début, bien, parce que t'es super excitée. Donc, peu importe tes cachets, peu importe tout ce que ça engendre à côté, t'as hâte, en fait, de tomber enceinte, peu importe comment tu te sens vraiment. Mais au fur et à mesure que tes cycles avancent et que ça ne fonctionne pas, j'avoue que ça devient très compliqué.
Ouais, j'imagine que ça peut être décourageant.
Oui, et en plus, t'as une pression sur toi de... Ouais.
Parce que j'imagine que tu dois culpabiliser à te dire il y a un truc qui va pas chez moi.
Énormément, énormément. Et puis bon, j'avais la chance, franchement, Camille a été super tout le long. Elle a été vraiment très proche de moi, elle m'a soutenue. Je sais que c'est pas facile d'être aussi sur le côté, de ne pas savoir quoi faire pour aider. Mais c'est vrai que toi, tu t'en veux énormément quand ça fonctionne pas. T'as l'impression que toute la pression est sur toi, que c'est de ta faute, alors que c'est pas le cas, c'est juste la vie, c'est comme ça, et un mauvais timing, et voilà.
Mais c'est une science que tu peux pas trop
contrôler, finalement, même avec la science, c'est pas exact, malheureusement, on fait pas ce qu'on veut.
T'as dû faire combien de cycles, alors, du coup
Alors, je n'ai fait en tout 4. Donc, sur à peu près 5 mois, parce qu'il y a un mois, on a fait une pause. J'ai dû refaire... Donc, en parallèle aussi, tu fais des tests avant pour vérifier que tout se passe bien à l'intérieur et que tu es constitué normalement et qu'il n'y a pas de problème interne, quoi. Et donc, j'ai dû refaire quelques tests pendant un mois et on voulait comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui bloquait tout ça, en fait, parce que, encore une fois, sur le papier, tout devait bien se passer et en réalité, ce n'était pas le cas. Donc, au bout de 3 essais, on a fait une pause et on a fait un 4e essai. Donc c'était au mois de décembre 2016 et qui n'a pas été concluant non plus sur une insémination classique. Et donc, il nous a fait embrayer sur la FIV. C'était vraiment pas prévu, mais je sais pas pourquoi, au fond de moi, je me suis dit que j'allais devoir en baver pour avoir un enfant. Je le sentais que ça allait venir. Donc, oui, j'ai dû y passer. Franchement, c'était... C'était dur parce que déjà quand t'as passé à peu près, je crois que j'en ai fait en tout à peu près 6 mois, ça nous a pris 6 mois les premiers essais parce que le premier j'avais même pas réagi aux médicaments, ensuite les essais qui ne fonctionnaient pas. Donc j'avais déjà tout ce poids derrière moi et puis après on commence la FIV qui financièrement c'était une somme astronomique. Donc oui, il y a beaucoup plus de... Le processus est beaucoup plus compliqué, même si les chances de réussite sont meilleures. Et ouais. Du coup, c'est 2 à 3 fois plus cher qu'une insémination classique, quoi.
2 à 3 fois plus cher ?
Ouais, ouais, ouais.
Mais les taux de réussite sont beaucoup plus importants ?
Exactement, oui. Bah, parce qu'une fois que, en gros, une fois que tu as tes embryons, déjà, il y a une énorme étape qui est faite, parce que là, tu sais que tu as une rencontre entre les deux gamètes, et c'est plus qu'une question de que la gamète s'accroche à l'intérieur, tout simplement, de ton utérus, et voilà. Donc, il y a déjà une bonne partie qui est faite, donc les chances de réussite sont beaucoup plus importantes.
Mais toi, en termes d'hormones et enfin de traitement médical, en tout cas, c'est beaucoup plus important pour toi ou...
Ah oui. Oui, là, c'était des injections, c'était énorme. C'était vraiment, vraiment difficile. C'était des montagnes russes niveau hormonal. On te fait prendre la pilule pendant un mois, on te fait des injections. Enfin, en fait, d'ailleurs, tu te les fais toi-même. Moi, j'ai horreur des piqûres, donc c'était compliqué. Avec Camille, on a suivi un cours pour savoir comment mélanger ce médicament-là avec celui-là, comment tu changes tes aiguilles, comment tu dois faire l'injection. Et donc, on a bien fait 3-4 piqûres différentes. Et moi, j'avais hors de ça, je fermais les yeux. Certaines étaient super douloureuses. Et Camille me les a faites.
C'est-à-dire quand même, au prix auquel tu payes, tu peux quand même aller avoir une nurse à la maison pour te faire
C'est clair, je sais qu'il y en a qui en prennent, mais bon, nous, on avait déjà pas mal dépensé.
Non, je comprends bien,
Mais ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué cette période, et vraiment difficile pour notre couple, et voilà, pour moi aussi, de subir tout ça.
Mais elle a quand même été concluante, cette FIV. Je veux dire, t'as eu une bonne surprise au final.
Oui, heureusement, parce que d'ailleurs, quand on l'a faite, j'avais l'habitude de tester tous les mois si j'étais enceinte. Moi-même, avant, la clinique te fait une prise de sang au bout de 14 jours. Oui, voilà, c'est ça. Et je faisais toujours un peu le test avant chez moi. Et en fait, comme t'as des traces d'hormones qui ont été injectées avant, c'est pas... vraiment fiable, donc à chaque fois je me disais peut-être que ça va rester, et en fait au final la petite barre sur le test de grossesse s'efface au fur et à mesure des jours, et donc là j'en avais fait une aussi vraiment en avance, et rien s'affiche, alors là je t'avoue que je m'effondre, je sais que c'est trop tôt, mais quand même j'avais espoir de voir un mini cool barre de couleur, et là je m'effondre totalement, j'en ai pas parlé à Camille. Et le temps que je pleure et que je me lamente sur moi-même en me disant « mais comment on va faire ?» Parce qu'on savait que là, on avait vraiment plus d'argent pour en refaire un deuxième, même si on avait toujours les embryons, parce que j'en avais plusieurs suite à ma ponction d'ovocytes. On pouvait pas financièrement se permettre de refaire une FIV à nouveau, un deuxième transfert du moins. Et en fait, le temps que je m'effondre, la petite barre apparaît sur le test de grossesse, et là, la joie envahit mon corps en entier. Je saute dans tous les sens. Je savais plus quoi faire. J'étais tellement heureuse. Donc ça a été concluant.
Donc une fois que, donc toi, tu fais le test à la maison. Ensuite, j'imagine, tu vas à la clinique. Ils te font la prise de sang. Elle est très très favorable. Comment ça se passe alors du coup? Comment tu démarres cette grossesse?
Nous on l'a su tout de suite, donc on était très bien encadrés pendant, bien un mois et demi, un truc comme ça, avant d'aller voir un gynécologue classique. Du coup voilà, on était bien encadrés et on a pu voir un peu l'embryon dès le début. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Et sinon, les premiers mois aussi, c'est vrai que c'est un stress de savoir si tu vas le perdre ou pas, évidemment, parce que tu dis, bon, je suis arrivée jusque-là, faut vraiment que ça tienne, parce que là, j'ai pas le choix, faut que ça fonctionne, parce que je sais pas comment je vais finir, quoi. Et en fait, à côté de ça, moi, j'avais toujours des piqûres intramusculaires de progestérone, donc pour aider justement l'embryon à tenir, à se développer, enfin surtout à tenir. Ça faisait super mal, honnêtement. Tous les jours à 7h, je versais ma larme quand Camille me faisait la piqûre dans le dos, c'était affreux. Mais bon, moi je savais pourquoi je le faisais. Cette fois-ci, ça avait un sens, parce que je savais qu'en moi j'avais un petit embryon qui grandissait, et c'était plus ou moins dans le vide, quoi.
Alors j'imagine que le deuxième trimestre et le troisième trimestre se passent bien.
Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, c'est cool. Mais parce que ça devait être un petit garçon. peut-être pour ça.
Et c'est pour ça. Et pourtant, on était vraiment partie sur le fait que ça serait une fille, même si je voulais c'est vraiment vrai. Un garçon. Ouais, parce que on est en relation avec d'autres mamans, d'autres couples qui ont utilisé ce donneur et elles ont toutes eu des filles.
Ah ouais?
Et du coup, moi qui voulais un garçon, j'étais partie sur ça doit être une fille, quoi, comme tout le monde. Et non, c'était un petit garçon. Mais ouais, ça s'est très très bien passé toute la grossesse, vraiment. Ça a été génial jusqu'à la fin, quoi.
Ah bah parfait. Alors donc du coup, je te propose qu'on parle du jour J. Comment se passe ton accouchement?
Alors pour moi, c'était prévu, c'était programmé. C'était pas un souhait, mais j'avais un tout petit problème de thyroïde qui avait été décelé pendant justement tous ces tests que tu fais au préalable avant la PMA. Et ça, plus le fait que c'était une grossesse qui avait été créée par une FIV, mon gynécologue a préféré faire déclencher un peu en avance, de vraiment pas dépasser la date limite.
Ouais,
je sais pas pourquoi. Et puis
oui,
ça m'arrange aussi un peu de savoir la date. Et en plus, on s'approchait de Noël, donc j'étais j'ai envie de savoir, quoi.
Mais alors, donc du coup, s'il te déclenche, est-ce que c'est quand même dommage, parce que tu te dis même si c'est un bébé qui est issu d'une, qui est issu d'une FIV, placenta est accroché de la même manière, quoi.
Ouais, je sais vraiment pas quelles étaient les raisons derrière tout ça, mais même si je trouvais ça bizarre, en soi, ça me dérangeait pas plus que ça. Ma mère était venue pour l'occasion et je me suis dit, vaut mieux qu'elle le voit avant qu'elle reparte.
C'est cool, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'aux US, ils ont tendance à déclencher à tout bas.
Énormément.
C'est un constat que je fais qui est assez étrange, je trouve.
Aussi parce que beaucoup, beaucoup de femmes choisissent de faire une césarienne aussi, donc... Il y en a qui choisissent énormément la date d'anniversaire, quoi, carrément.
Ouais, ça fait un peu calendrier chinois, tu vois. Je veux la chèvre. Mais, donc s'ils te font un déclenchement, je t'imagine que tu es retournée à être bourrée d'hormones pour pouvoir faire un accouchement par voie basse?
Alors oui, en fait, c'est dès le matin, donc j'avais un jour programmé, donc je me présente... à l'hôpital, à maternité, et donc là il commence, je crois qu'il me donne un cachet ou quelque chose comme ça pour commencer avant de faire par transfusion, mais je crois que j'avais dû prendre un cachet, genre tu vas voir, ça va dépoter, prépare-toi, quoi. Ok, pas de problème, j'attends que ça de toute façon, hein. Ça fait 9 mois que j'attends, donc je suis prête. Et en fait, pas du tout, j'ai pas réagi au cachet, donc... Après quelques heures, ils viennent vérifier, ça n'avance pas du tout. Donc là, ils disent, ok, on va faire par transfusion, t'injectes ça. Là, vraiment, tu vas le sentir passer, quoi. Okay, ça marche. On attend, donc calme. Ma mère avait pu venir, on était dans la même salle, la salle de travail. Ma mère était là, donc c'était sympa, j'ai pu discuter.
On faisait une belote. Mais...
on était comme ça, en attente, quoi. Genre, ça y est, quoi, ça va arriver, là, dans l'heure. Et pas du tout, encore une fois, non. Donc, ils reviennent, donc pendant tout ce temps, cette période, tu dois pas manger, pas boire, donc c'est aussi un peu compliqué, donc on attend, il me dit on va refaire une injection, alors là on y va, on met la dose, ok, donc là le temps passe, je crois qu'ils me font passer la nuit, ils me disent mange un mini bout de sandwich, ils m'ont amené ça, en plus tu connais la nourriture américaine et en plus en hôpital, pas terrible, et bois des glaçons, je continue à boire des glaçons. Et du coup, je crois que là, j'ai passé la nuit où c'est pas passé grand-chose. Le lendemain, si je me trompe pas, on a repris, ils m'ont refait une injection, toujours rien. Et je crois qu'Evan, il voulait vraiment rester au chaud, il avait prévu sa date, lui, c'était pas...
Il allait tout vous faire voir, moi je veux passer Noël avec mon cordon ombilical, et tout vous faire voir.
Voilà. Et donc là, rien ne se passe, encore une fois. Donc, on prend la décision que le médecin perce directement la poche des os pour vraiment déclencher tout ça.
Ouf.
C'est hyper douloureux. Camille me tenait, une nurse me tenait pendant le médecin faisait ça. J'ai pleuré, souffert, crié. C'était horrible. En plus, elle n'a pas réussi du premier coup, donc catastrophe. Voilà. Bon, après ça, par contre, enfin, on arrivait à quelque chose. Enfin, là, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était, la souffrance d'un accouchement. J'ai vraiment dépoté.
J'ai demandé la péri.
En fait, ils sont là depuis je te jure que depuis la veille, ils étaient là. Surtout, n'hésite pas, hein, dès que tu veux, là, on l'a fait tout de suite, la péridurale. Ils étaient vraiment au taquet là-dessus, à vraiment me forcer à la faire, quoi. Et moi, j'avais envie de ressentir quand même un peu ce que c'était un accouchement, même si je me doutais que j'allais l'apprendre. Mais tu sais, j'ai quand même envie de les choses le plus possible. Et puis, quand je peux plus, là, je demanderai. Bon, bah là, du coup, je me suis dit, je sais pas jusqu'où ça peut aller, cette douleur. Donc, je vais commencer à demander avant que ce soit trop tard. Mais après, malheureusement, justement, le fait que le médecin m'ait percé la poche des os, j'ai eu une infection, sauf qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite et je suis tombée malade, fièvre et compagnie. Et du coup, le cœur des vannes s'est emballé. Quand on a vu ça, on a appelé l'infirmière qui voyait pas. Mmh. Bref, là, c'est un peu un mouvement de panique. La docteure est arrivée et a dit il faut partir tout de suite en césarienne. Donc là, horrible. J'étais vraiment en tristesse, quoi. J'avais vraiment pas imaginé ça comme ça, encore une fois.
Ouais.
Et donc voilà, donc césarienne d'urgence, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon petit Evan le 21 décembre.
Bah, il était en bonne santé, tout allait bien.
Oui, alors le problème, c'est que je l'ai pas vu, en fait. Je l'ai vu une milliseconde, ouais. En fait, ils l'ont pris tout de suite en soins néonatales parce qu'il a été. Il soupçonnait qu'il soit infecté lui aussi. Et du coup, je l'ai vu en fait que 24 heures plus tard parce que j'étais sous perfusion, etc. Enfin, ça s'est pas très bien passé. L'accouchement, c'est un très mauvais souvenir pour moi.
Ma pauvre, mais oui, mais parce que tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu te déclencher plus tôt. Enfin...
Oui, tout ça parce qu'ils veulent toujours forcer les choses, aller plus vite, etc. Ouais. Voilà, le fait de percer la poche des os et compagnie, je veux dire, il faut toujours
pousser. C'est vachement intrusif, quoi. Enfin, ça paraît absolument pas naturel. Je veux dire, si même en étant shooté d'hormones, il veut pas venir, enfin, laisse-le vivre, cet enfant, quoi. Enfin...
Ouais. On part en France, c'est vrai que quand je vois des histoires d'accouchement en France, c'est bienveillant et
ouais.
Bon, j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais vraiment ça va plus dans le sens de l'humain que là, c'est encore une fois, et en plus de ça, tu sais qu'une césarienne, au niveau des hôpitaux, ça rapporte beaucoup plus que faire simplement un accouchement naturel. Donc il y a aussi beaucoup ça qui joue, malheureusement les États-Unis ça reste sur le côté business, et pour moi c'est pour ça que je pense aussi que ça allait directement dans ce sens-là, quoi.
Et je crois que c'est je vais donner d'ailleurs un conseil parce que c'est quelque chose sur laquelle je m'étais basée moi pour choisir mon hôpital à New York. C'était le taux de césarienne qui était administré pour les femmes. Et la NYU par exemple à New York avait le taux de césarienne le moins élevé.
Ouais, c'est vrai que c'est super important de le rappeler parce que tu peux aussi vérifier les statistiques comme ça à l'avance et nous, on avait choisi ce qu'on pensait être un bon hôpital, vraiment. Et pourtant, bah, voilà.
Oui, après, bon.
Terminé comme ça.
Ouais. Oh, c'est, ouais, c'est, je trouve ça un peu décevant d'entendre ça, étant donné que voilà, c'est juste la vie d'un médecin qui fait que tu dois en passer par là. Donc,
Oui, exactement. Et puis, le fait de ne pas pouvoir le voir après, ça a été vraiment une souffrance pour moi d'être séparée de lui aussitôt. De ne pas avoir la possibilité d'aller le voir parce que voilà, j'étais sous traitement, il n'était pas dans ma chambre. Enfin, c'était vraiment une souffrance pour moi parce qu'après avoir enduré tout ça, j'avais qu'une envie, c'était comme toute maman, de le retrouver. Quoi. Ouais. Et de ce côté-là, je trouvais que c'était vraiment mal fait. Quoi. Et à chaque fois que je demandais pour y aller, non, t'as une perfusion à cette heure-là, c'est pas possible. Et puis du coup, le soin néonatal était fermé. Enfin, c'était assez compliqué à cette période.
Tu ne vends absolument pas.
Non, et je le recommande pas du tout, vraiment. Avec Camille, on est passé par un autre hôpital parce que on voulait pas revivre ça du tout. On s'est vraiment mieux renseigné et c'est super super important en fait. Le nom, ça c'est pas vraiment ça. Il vaut mieux se renseigner plutôt avec des gens autour de soi que juste à juger par un nom et des pourcentages aussi.
Bon, bah, t'as réussi quand même à le récupérer dans ta chambre après 24 heures. De toute façon, après, j'imagine que t'es vite rentrée chez toi.
Pas tout de suite. Malheureusement, on a passé plusieurs jours parce qu'il devait faire des tests. Enfin, voilà, par rapport à l'infection qu'on a eue. Donc, c'était compliqué. Mais finalement, j'ai même pas eu dans ma chambre. Juste quand moi, j'ai été, je sais même pas comment on le dit en français, discharged de l'hôpital.
Ils t'ont renvoyé chez toi.
Oui. je savais même pas s'il allait pouvoir venir avec moi. Ils n'avaient pas encore reçu les résultats, etc., de ces derniers tests. Et bon, bah, finalement, le temps que je reste avec lui au soin néonatal, finalement, ils ont dit, OK, on va quand même le renvoyer vous. On a une partie des résultats, ça paraît bon, donc vous pouvez partir. Donc, c'était juste le jour de Noël, en fait. C'était le jour de Noël, on a pu rentrer à la maison tous ensemble.
Bon. Ouais, on donnera pas le nom de cet hôpital. On va juste tirer un trait dessus. De toute façon, la Floride, de manière générale, c'est pas un état que je porte dans mon cœur.
On a soleil quand même.
Ouais, mais vous avez tellement d'orages. Au revoir, vous avez Disney World, quoi. C'est le seul truc qui vous sauve. Hein.
Oui. C'est vrai.
Est-ce que en Floride, vous avez des congés parentaux?
Alors, je sais pas si c'est propre à l'État. Mais nous, on était dans des petites entreprises, donc ça, comment dire, la règle s'appliquait pas, tu sais, la règle au niveau fédéral où tu as, par exemple, une entreprise de plus de 50 FMLA. Employés, voilà.
Mais après, il y a une petite loi par État, je sais que New York ou Californie, par exemple, je crois que maintenant, il a 12 semaines, par exemple, à New York.
D'accord.
Où à partir du moment où tu es engagé dans une entreprise depuis plus d'un an, tu es en droit de demander 12 semaines de congé, mais le montant, le salaire est capé. Donc, à New York, bon, bah, ça te paye la moitié de ton loyer à peine, mais c'est toujours ça de prix, hein.
Non, évidemment, évidemment, c'est sûr. Je ne connaissais pas cette petite règle-là. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie de passer à autre chose au niveau de mon travail. Donc, j'avais arrêté, tout simplement. Et on avait économisé pendant ma grossesse pour pouvoir se permettre que je reste à la maison et profiter des vannes après tout ça, après ce périple.
D'accord. Oh, bah, tu m'étonnes.
Donc, du coup... pas de congé parentaux en soi payé, mais congé parentaux quand même, dans le sens où je pouvais profiter de lui à la maison à 100%. Et okay. Camille avait eu le droit à 2 semaines par son travail.
Pendant combien de temps tu restes à la maison, toi, à gérer Evan ?
Eh bien, je reste à peu près, en fait, jusqu'à le temps de après, trouver un emploi, etc. Okay. Jusqu'à peu près à ces 8 mois.
Trop bien.
Ouais, on n'avait vraiment pas prévu autant. Et bon, on a pu se permettre...
Les aléas.
Ouais. Et puis bon, le temps de trouver un emploi qui me plaisait, etc. Donc ouais, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir profiter de lui, mais en même temps, j'avais envie de retrouver une vie d'adulte.
J'imagine bien. Je ne peux qu'imaginer, je veux dire, à te faire des monologues toute la journée, ça t'isole un peu du reste du monde.
Oui, ouais, ouais.
Alors, à quel moment on repart pour un second round? Et auquel c'est au tour de Camille de s'y lancer.
Alors, donc Camille a fini ses études, etc., depuis qu'Evan était né. Et nous, on avait toujours eu en tête de se dire que, vu la difficulté du process d'avoir un enfant, autant garder les choses fraîches dans notre tête et recommencer rapidement. On s'était mis en tête 2 ans d'écart, mais on sait aussi que... Mais voilà, ça n'a pas marché du premier coup, ça pouvait prendre du temps. Donc on s'est dit, bon, je crois que c'était vers les 1 an d'Evan qu'on s'est dit, bon, bah, on va commencer avec toute la procédure de test que tu as à faire au préalable.
Soyons prévoyants, ok.
Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, on y va tranquillement et on verra comment ça se passait. Mais dans l'idéal, on aimerait bien qu'ils aient 2 ans d'écart entre le premier et le deuxième.
Ok. Et en termes du coup de donneur, vous avez acheté assez de fioles du même monsieur?
Oui, c'est important de le préciser parce que notre donneur, il était sold out assez rapidement. Il a fait un don qu'une fois et du coup, on était vraiment contents justement d'avoir eu l'information de si on voulait garder le même donneur pour avoir des frères et sœurs après pour le premier, d'acheter en avance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et bon, du coup, c'est un coup par contre. Hein, c'est
sûrement... Ouais, t'as eu un prix de l'eau ou pas?
Et non.
C'est une remise.
Pas du tout.
Une achetée, 3 offertes.
Non, j'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Donc, on a dû prendre à l'avance. Et puis en plus, tu sais, tu te dis, bah, et si 2 ça marche pas, faut que j'en prenne 3 du coup. Et 3, on sait jamais. Et tu te dis, bon, j'ai fait tout ça pour qu'après, finalement, ça prenne pas. Donc, on en a acheté pas mal d'avance en ayant l'option que si tu en veux plus au bout d'un certain temps. Et étant donné qu'elles restent à la clinique, tu les reçois pas chez toi et tu les stockes pas dans ton garage.
Ouais, tu peux les revendre.
Enfin, je crois que tu peux peut-être les revendre à quelqu'un d'autre, mais la clinique te les reprend, je crois, à 50% si elles ne sont pas sorties de leur de l'enceinte de l'établissement, quoi. C'est-à-dire que tu t'es pas fait livrer à ton docteur. Là, ils la reprennent pas si tu l'as fait livrer à ton docteur pour l'insémination. Finalement, tu annules ou peu importe, ils la reprennent pas. Ou si tu la décides de faire de la stocker dans un autre, il y a des endroits qui sont réservés à ça, au stockage de gamètes. Si tu décides de la faire transférer ailleurs, ils te la reprennent pas non plus. Donc nous, on avait laissé en stockage chez eux. Et en disant dans l'idéal, si on n'utilise pas toutes, ils nous les reprennent au moins la moitié du prix.
Ok, bon, bah, c'est toujours bon à savoir.
Oui.
Mais alors du coup, comment ça se passe pour Camille?
Donc bah, pour Camille, on repart dans le même process, donc avec tous ces tests. Et encore une fois, sur le papier, tout doit bien se passer pour Camille parce qu'elle était vraiment super santé. Il n'y a rien, qui cloche, il n'y a pas de point noir. Donc on part sur la même chose. Donc elle prend les mêmes cachets, à peu près au même dosage que j'avais pris. Et puis voilà, on fait une première insémination. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. On savait que voilà, elle est vraiment très relaxe, donc elle n'était pas comme moi à se prendre la tête et d'être super stressée. Donc du coup, de toute façon, ça marche pas la première fois, c'est pas grave, on va essayer, ouais. Voilà quoi. Mais en sachant que maintenant on avait un enfant à charge, donc au niveau budget, c'était voilà, on peut pas se permettre non plus d'aller trop loin quoi. Ouais. Et donc elle refait un deuxième essai et ça fonctionne pas à nouveau, donc bon, quand même, une petite pression commence.
Ouais.
Et au troisième essai, elle demande au médecin, elle dit écoutez, je veux augmenter mon dosage, je voudrais au moins avoir deux ovules, parce que ça avait été le cas pour moi, un de mes cycles. On sait que ça peut ne pas fonctionner pour les deux, comme ça arrivait pour moi, ou il y en aura au moins un qui prendra quoi.
Donc, mais elle... attends, je pense que j'ai raté mes cours de sciences de cinquième. mais parce que je pensais que chaque mois, t'en avais un seul qui se dégageait de...
Alors, techniquement, oui, mais il arrive qu'il y ait des cycles, parce qu'il y a plein de couples hétérosexuels qui ont des enfants, des jumeaux, des triplés, des multiples, en tout cas de façon totalement naturelle. Donc, techniquement, oui, tu es censé avoir un seul ovule libéré par mois. Maintenant, avec le traitement, tu pourras en avoir plusieurs. Oh. Donc, pour Camille, elle avait voulu augmenter pour avoir au moins deux œufs. Il lui avait dit, par contre, si tu en as plus de deux, on annulera le cycle. On ne veut pas faire l'insémination si on a plus de deux. On était OK avec ça parce qu'on voulait pas non plus avoir des multiples à la base.
Et, c'est vrai. OK, donc on double nos chances pour le troisième cycle.
C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, elle avait deux... ovules matures, donc ok, on y va pour l'insémination, c'est ce qu'on a fait, tout va bien. Et donc elle avait aussi cette elle a dit, je fais pas du tout test de grossesse, moi je veux pas savoir, etc. Ok, pas de problème.
C'est bien, elle est cool hein.
Ouais, heureusement qu'elle est tranquille dans les temps, parce que c'est très dur sinon.
C'est un bel équilibre.
Oui. Donc, on partait en week-end et du coup, elle a demandé si elle pouvait avoir la prise de sang plus tôt parce qu'on partait plus longtemps, etc. Donc, ils lui disent, ok, pas de problème, on fait la prise de sang. Donc, ils t'appellent dans la journée. Elle reçoit l'appel, on était sur la route et son taux était très faible.
Mais il y avait quand même un taux, non ? C'est-à-dire que c'est bon signe s'il y a un taux.
C'est bon signe, mais ils lui ont dit... voilà, sois contente, mais pas trop non plus parce qu'il y a des chances que tu le perdes, étant donné que le taux est plutôt faible. Donc, bon, on se réjouit quand même, on est quand même super content que c'est fonctionné. C'est un signe que voilà, les choses vont quand même marcher, même si c'est pas cette fois-là. Donc, déjà, quand même très très contente. Et puis, elle refait voilà, encore une prise de sang, ça a augmenté, mais pas non plus des masses, mais voilà. Et puis, vient assez rapidement. Donc, du coup, vu qu'on est suivi par cette clinique, on fait assez rapidement une échographie. Et donc, vient le jour de l'échographie, on y va, super trop content de voir un petit cœur qui bat, on est vraiment aux anges. C'est vraiment tip top. Et là, au moment où le docteur va arrêter, il vérifie que juste que tout va bien autour de ce petit embryon avec le petit cœur qui bat. Ouais. Et là, oups, il y en a un deuxième. Alors là, le choc.
Tu m'étonnes.
Parce que déjà, on se disait que peut-être qu'il ce petit embryon ne tiendrait pas, et au final on en a un deuxième. C'était je suis presque, enfin pas tombée de ma chaise, mais je me suis levée, rassise, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe.
Mais tu vois, la vie a voulu que tu rentabilises toutes ces procédures.
Ça, c'est
quoi pour Olivia, elle en a sué, du coup pour Camille on va lui en caler deux petits là, tac tac. Ça va.
Mais ça correspond très bien à Camille, qui est donc comptable, expert comptable, tu vois. Donc, au niveau rentabilité, c'était exactement ce qu'il lui fallait.
Quelle idée d'être comptable. Bon, ouais.
Je comprends pas non.
Mais alors, des jumeaux, mais comment vous rentrez à la maison avec cette nouvelle ?
Franchement, moi, j'étais déroutée. Je m'attendais tellement pas. Tu sais, t'imagines un peu ta vie, quoi. Alors, j'ai mes deux enfants, j'aurai ma petite voiture, et voilà. Et là, tu revois tous les plans, quoi. Ouais, franchement, c'était...
Mais c'est surtout qu'Evan, il avait quel âge ?
Du coup, Evan, il avait... un an et demi, un
Ouais,
an et
c'est 18 mois,
quelques,
un truc comme ça.
ouais, quelque chose comme ça, parce qu'ils sont nés, Evan avait 2 ans et 1 mois.
Bah, très bien foutu alors du coup, pile 2 ans d'écart.
Oui, finalement, ouais.
Mais
Ouais,
ça, c'est la comptabilité, c'est la rigueur, hein. Ça, on peut
ouais.
pas y louper.
Oui.
Alors, comment ça se passe pour elle, sa grossesse? Parce que j'imagine que c'est
Oui,
double travail, quoi.
c'est ça. Alors pour elle, très 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 malade. Les
Oh,
3 premiers mois,
non.
c'était un enfer. Elle perdait du poids. Le médecin était là, je vais te mettre sous perfusion si ça continue. On avait prévu d'aller en France en se disant que ce sera peut-être nos dernières vacances en France avant un moment. Donc on se dit on va y aller dès le début de la grossesse, comme ça on est tranquille parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la grossesse va se terminer.
Ouais.
Du coup, il lui dit je ne te laisserai pas partir si tu prends pas. Si tu continues à perdre du poids, tu prends pas 1 kilo, donc elle se forçait à manger, mais c'était horrible pour elle, elle pouvait vraiment rien avaler. Puis du coup, il y avait un risque qu'elle les perde, en fait, au final, c'est sur tout ça, donc, parce qu'elle leur apportait pas ce qu'il fallait, étant donné qu'elle n'en mangeait pas. Donc c'était un peu stressant cette première partie, mais
Ouais.
après, ça s'est plutôt bien passé, à part que bah, forcément pour elle, c'était difficile de porter 2 bébés en même temps.
Bah, elle est courageuse, c'est bien.
Ouais, franchement, elle était très très courageuse.
Ouais, parce que,
Elle a
un,
tenu
déjà,
jusqu'à la
c'est.
fin, c'était
Oh la
remarquable.
vache. Et puis, attends, ils sont nés quand, les petits, pour qu'on voit un peu par rapport aux clôtures fiscales?
Alors oui, ça tombait très mal pour son cabinet qui
Oh la
ils
pauvre.
sont nés au mois de janvier. Donc voilà,
Oh non!
quel poil au début de la saison. Difficile, ouais.
Non! Alors, comment ça se passe du coup pour elle, son accouchement? J'imagine que elle va pas tenir les 40 semaines. J'imagine
Non.
qu'il la déclenche plus tôt.
Oui, et voilà, ils savent que ça va se terminer avant, ils la font aller le plus loin possible, évidemment. Alors
Bien
elle est
sûr.
suivie vraiment énormément, c'est-à-dire qu'elle avait rendez-vous, je crois, au début c'était à peu près toutes les 2 semaines, elle avait un gynécologue
Ouais, elle est
normal.
en high risk. Ouais,
Voilà,
ouais.
il y a un gynécologue spécialisé dans les grossesses à risque et multiples. Donc elle était vraiment hyper, hyper suivie. À la fin, c'était vraiment toutes les semaines, elle avait rendez-vous. Et
Ouais.
donc, ils avaient prévu une date pour la césarienne. Et il lui dit toujours, je sais même pas si tu vas tenir jusque-là. Mais elle a quand même super bien tenu
Ah, elle est
et
quand même bien.
ils sont nés quand même un peu à l'avance parce que une échographie de contrôle, juste tout se passait super bien et on avait ses parents qui étaient là et puis juste au moment où on doit partir, ils disent, mais en fait on a prêté attention. Elle dit non non bah viens t'asseoir 2 minutes on prend attention avant de partir et là la tension est haute. Ok, ils reprennent la tension, non, elle est toujours haute. Ils lui disent, bon, bah, il faut que tu prennes tes affaires et que tu ailles à l'hôpital maintenant. Il y a peut-être un risque, donc il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc on se dit,
Sympa.
bon, ok, Cam va à l'hôpital, moi je rentre. On avait pris une soirée, spectacle, Cirque du Soleil pour sa mère et son beau-père ce jour-là. Donc,
Oui, pour qu'il garde Evan, du coup.
donc il devait
Oh non.
garder Evan, mais c'était du coup, on n'avait tellement pas prévu que ça se passe comme ça. Et donc ils vont au spectacle, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, elle va pas accoucher dans la minute, allez au spectacle, je pense qu'elle va accoucher peut-être demain. Moi je garde Evan, etc. Donc le temps que je les dépose, qu'on rentre à la maison, il était bien 8h30, petit Evan était tout fatigué. Cam me dit, bon bah, ça va. Moi je me dis, bon, vers 10h, bon, je vais fermer l'œil,
Ouais.
je vais peut-être les rencontrer demain, il faut mieux que je me repose. J'avais travaillé hyper tôt ce jour-là. Et du coup. Elle m'appelle et moi je saute sur mon téléphone, je dis tout va bien, elle me dit non non ça va pas, il faut que tu viennes. Oh là là, la catastrophe. J'attrape Eva, le pauvre qui dormait et on part tout de suite en direction de l'hôpital parce qu'elle me dit
OK.
voilà ils vont me faire une césarienne maintenant quoi.
Oh la vache. Bon bah écoute, faut ce qu'il faut, mais bon, c'est tu peux pas, ouais, tu peux pas anticiper le spectacle, quoi.
Non.
C'est quand
Donc.
même dommage parce que j'imagine il doit durer 2-3 heures à tout péter
Oui,
le
c'est ça.
spectacle.
Mais au final, de toute
Oh
façon, je veux
non.
dire, ils n'auraient pas pu venir pendant, tu sais, pendant toute
Oui.
la césarienne, etc. C'était compliqué pour Evan, mais heureusement, une de ses collègues a pu récupérer. Donc,
OK.
c'était vraiment très
Pouf.
sympa de sa part de le garder le temps que la mère de Cam puisse venir. Et donc, pour la césarienne, ils étaient vraiment au taquet pour la faire tout de suite. Camille,
Ouais.
elle a dit, j'étais à 2 doigts de me cacher dans les toilettes pour qu'ils t'attendent, quoi. Et je leur dis, attendez ma femme, attendez ma femme. Donc, finalement, ils m'ont bien entendu. Et donc ça s'est passé très 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 vite, honnêtement pour elle aussi. Elle était très contente comme ça. Moi, comme ça, c'était réglé. Donc, ils ont fait la césarienne. Et puis là, par contre, c'était vraiment, j'ai trouvé l'hôpital hyper bienveillant. Ils m'ont vraiment, tu vois, le fait qu'on soit un couple homosexuel, tu pourrais dire qu'il y a des gens qui ont des préjugés, etc. Et ils ont été vraiment mais, adorables. Ils m'ont inclus dans tout. Tout de suite, ils m'ont fait prendre des photos avec les bébés dans tous les sens. C'était vraiment super de pas se sentir mal à l'aise, voilà, d'être un couple homo.
De toute façon, il n'y a pas de raison. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, je partageais ma chambre avec un couple de nanas aussi. Je
trouvais... Ah ouais?
Et d'ailleurs, je trouvais ça vachement cool parce que elle est restée la nuit et le mien rentre à la maison. On va dire, hé, il y en a une ici qui se fait avoir. Et c'est pas juste.
Ah, c'est sympa que tu aies l'expérience.
Ouais.
Il y en a beaucoup qu'on a rencontré, beaucoup d'infirmières qui, pour qui c'était la première fois d'accueillir un couple.
C'est vrai?
De ouais. Femmes, ouais. Mais elles ont été toujours bienveillantes. Ça n'a pas été un problème, jamais, jamais. Même pendant mon accouchement à moi, donc pour Evan, à aucun moment on s'est senti mis à part ou quoi. Enfin, Camille s'est sentie mise à part. Ils m'ont toujours inclus comme un couple normal, et ça vraiment c'était hyper appréciable.
Bah, vous êtes un couple normal,
ouais, mais pas pour tout le monde malheureusement.
Bah ouais, mais bon, j'ai envie de dire, t'es autant impliqué, voire même parfois plus qu'un mec.
C'est vrai que du coup, on imagine qu'on ressent les choses différemment, on vit les choses différemment.
Bah tu sais ce qu'elle vit, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Surtout
la douleur, ce genre de choses, quoi. Enfin, je veux dire.
D'être passé par là.
Je pense qu'il serait incapable d'accoucher. Moi, déjà, quand il se coupe l'ongle, il est en train de mourir. Je veux dire, remettons les choses dans leur contexte, non, il n'y a pas de distinction à faire avec un partenaire, quoi. Donc, l'hôpital, bien plus sympa que le précédent.
Oui, vraiment, super, on était contents.
Ah, cool.
On avait eu de bons échos déjà avant de choisir cet hôpital. Et vraiment, ça a été génial, ils étaient hyper bienveillants. C'était complètement différent de l'expérience que j'ai eue, moi.
Et alors, comment ça se passe, la rencontre entre Evan et son petit frère et sa petite sœur, du coup, non? C'était les jumeaux. C'est un petit garçon, une petite fille.
Oui, Adèle et Raphaël. Ça s'est bien passé. C'est vrai que notre famille nous disait beaucoup. On est tellement tout le temps avec lui. C'est vrai qu'Evan, on a toujours tout fait avec lui. Il n'a jamais été, bon, à part en daycare, mais on ne l'a jamais fait garder. On était toujours tout le temps avec lui. Et du coup, il nous disait il va être jaloux de ses petits frères et petites sœurs. Ça va être dur pour lui, etc. Et au final, ouais. Non, il a été. Il a été super, il les a pris dans les bras dès le début, et il est toujours aussi attentionné avec eux maintenant, et encore plus, c'est vraiment adorable à voir. On essaie de le préparer un petit peu, mais bon, on n'a pas non plus voulu... il avait que 2 ans, quoi. On a essayé de lui expliquer qu'il serait plus tout seul, mais on n'a pas non plus lui rabâcher tous les jours, quoi. Il le voyait, il le ressentait, donc...
Puis 2 ans, c'est quand même l'âge ingrat, quoi, enfin, pour les parents.
Oui.
Donc alors comment ça se passe le retour à la maison du coup avec avec 3 enfants?
Waouh, c'était une organisation déjà.
Un tourbillon.
Oh là là, ouais. Heureusement qu'on avait la famille de Camille qui était là. C'est ouais. Très dur, c'est vraiment très dur déjà. Bon, j'avoue qu'on avait déjà vécu la chose puisqu'on en avait eu un premier et c'était déjà vraiment difficile. Là, on était un peu plus préparés à tout ça, mais deux en même temps. En plus, on a pas de chance, ils ont eu une intolérance au lactose, donc alors horrible, ils pleuraient tout le temps. Au niveau fatigue, on était à des sommets.
Mais oui, et à chaque fois, on a souvent ce débat avec mon mari à se dire franchement quel serait le pire entre guillemets. Est-ce que c'est avoir des jumeaux en tant que premier enfant ou en deuxième? Et je pense que franchement, ça doit être en deuxième. Parce que le premier, tu sais pas, t'as aucun repère, tu sais pas ce que c'est. Le deuxième, tu te dis bon, mais ouais, ça doit être une sacrée trompette.
Ouais, c'est clair. Franchement, c'est énormément d'organisation. Et je pense qu'on n'est jamais prêt, ni à un premier enfant, ni à avoir 2 d'un coup, même si c'est pour la deuxième grossesse. On n'est jamais prêt à 100%. Je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'organisation et de communication avec son partenaire. Je crois que c'est la clé. Et de l'aide si possible. Nous, on a vraiment, enfin, on a eu la chance que la maman de Camille puisse rester avec nous pendant leur près 6 mois de vie.
Ah ouais, ouais. Ah, trop bien. Et je croyais que tu allais me dire une semaine.
Et non, elle est restée, heureusement, parce que je sais pas comment on aurait fait sinon.
En fait, ça allait être ma prochaine question parce que, du coup, comment ça se passait, vous, en termes de congé parental? Toi, par exemple, j'imagine que t'avais 2 semaines max, c'est ça?
Alors non, cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise plus grande. Voilà. Et du coup, j'avais un peu peur parce que je me disais, finalement, je ne suis pas la mère biologique, celle qui a porté. Donc, est-ce que j'aurai le droit au même congé? Bah, oui. Enfin, et puis, devenant d'un couple, encore une fois, homosexuel, est-ce que ça va passer? Parce que parfois, tu sais, même au niveau de l'assurance, ça ne fonctionne pas pareil. Et puis finalement, non, ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai le droit à 12 semaines, ouais.
Ah, trop cool.
Et je crois que j'ai eu un peu moins de 12 semaines, je dis une bêtise, mais je crois que j'ai eu... non, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, je les ai pris de façon espacée, à peu près 2 semaines à chaque fois. Et puis après, le Covid est arrivé, du coup, ben, malheureusement, j'étais... comment on appelle ça déjà? Sorry, le show... Non, pas licencié, chômage...
Ah, donc qui t'ont mis en congé sans solde, pardon. Oui.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Oui, oui, oui.
Et Camille, du coup, elle a pu prendre... Bah, elle avait au moins 8 semaines, je pense, par son...
Oui, c'est ça. Elle a à peu près le même temps aussi que... Voilà. Ouais. Le même temps que...
Oh la vache. Ça fait quand même court pour des jumeaux. Hein.
Oui, alors, elle a eu la chance, du coup, bah, en fait, grâce au Covid. Tout ça, ça a porté pas mal de malheur pour tout le monde. Mais en soi, on a eu la chance de pouvoir profiter de nos enfants à la maison. Et elle a pu travailler de la maison, donc génial. Nous, moi, je gardais les petits avec sa maman, donc, et du coup, elle pouvait les voir, elle pouvait allaiter pendant qu'elle travaillait, en fait.
Mais c'est cool que belle-maman soit arrivée, du coup, trop bien.
Ah ouais, vraiment, on lui a pas trop laissé le choix. On lui a dit, bon, bah voilà, on va avoir des jumeaux, génial, bon, alors on a besoin de toi.
parce que j'avais quand même zappé le Covid, mais... Ouais, tu peux même pas les mettre à la crèche, quoi, étant donné que les crèches étaient fermées.
Et oui, du coup, ça rendait les choses vraiment compliquées. Bon, de toute façon, on voulait pas les mettre tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on avait fait, on avait demandé à sa maman de venir. Mais oui, ça compliquait encore plus les choses à ce moment-là. Et on a eu vraiment, vraiment la chance de l'avoir à nos côtés, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas notre famille à côté quand on a envie d'aller faire des cours, des choses comme ça. On a nos enfants à 100%. Donc c'était une aide vraiment immense pour nous de l'avoir à nos côtés pendant au moins leurs 6 mois. Quoi.
Quel bilan alors tu tires de vos deux expériences respectives de la PMA aux États-Unis?
Je pense que je me serais un petit peu mieux renseignée sur les possibilités qui s'offraient à nous. On n'avait malheureusement pas de connaissances à ce moment-là. Maintenant, on a découvert pas mal de groupes Facebook qui d'entraide pour les personnes qui ont recours à la PMA ou GPA aux États-Unis. Et j'avoue que c'est une aide énorme parce que tu t'engages dans un processus qui peut être déroutant, qui est difficile à vivre. Ça a un impact sur ta vie de tous les jours, ça a un impact sur ta vie de couple. Après, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir recours à la PMA de façon plus facile qu'en France, puisqu'en France, c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas autorisé pour les couples de femmes qui doivent se rendre dans d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et malheureusement, le coût, par contre, est bien plus élevé que dans certains pays. Donc ça, c'est le mauvais côté.
Mais alors, comment vous avez fait, vous, pour vous financer? Est-ce que vous avez dû faire un emprunt à la banque? Est-ce que c'était sorti de vos économies? Est-ce que vous avez fait une cagnotte avec vos proches?
Non, parce qu'au début, j'avoue qu'on leur avait pas trop parlé de ce qu'on, de notre projet bébé. Enfin, ils savaient qu'on voulait avoir des enfants, mais on voulait être un peu dans notre cocon et malgré ce côté science, se sentir un peu comme un couple normal qui a annoncé sa naissance, sa grossesse, un peu plus tard. Et après, on a eu besoin d'être épaulé parce que quand t'as des échecs, t'as besoin d'en parler finalement. Et on a commencé à en parler, mais on n'a jamais demandé d'argent à notre famille. On a d'ailleurs pas trop parlé du prix que ça coûtait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on savait à l'avance qu'on voulait avoir des enfants. Et quand on a eu un peu connaissance du prix, on a économisé. On savait que tout ce qu'on économisait, c'était pour ça, c'était pour notre projet à nous. Il y a certains, c'est lâcher une maison, nous, c'était avoir des enfants. C'est malheureux que le coût...
Ouais, c'est ça, c'est temps, malheureux quand même. Bah, c'est surtout que quand tu prends en comparaison, par exemple, avec Anne Fleur ou un couple hétérosexuel, où globalement, quand même, c'est... considéré comme de l'infertilité et du coup ça peut être pris en charge par ton assurance. Et encore, j'ai pas envie de dire que ça dépend du cas de la famille, mais ça peut aussi dépendre de l'état.
Oui.
Donc
ça dépend de plein de choses en fait. À ce moment-là, notre assurance couvrait pas du tout ça, même pas du fait qu'on soit un couple homosexuel, mais je crois qu'il fallait effectivement que tu essayais pendant 1 an pour avoir un peu une couverture un peu là-dessus, mais c'était pas à 100%, hein. D'ailleurs ça l'est jamais. Mais bon, évidemment, on n'a pas de preuves pour montrer qu'on a essayé pendant 1 an, et puis, évidemment, ça paraît logique, donc du coup pour nous c'était pas du tout couvert. Et puis j'avoue qu'une fois que t'es engrenée dedans, t'as ce désir d'avoir un enfant, t'as des échecs, t'as qu'une envie, c'est recommencer. Et bon, bah vraiment, on a puisé dans toutes les économies qu'on avait, hein. Je vais pas te mentir. Ouais. Quand tu vois le coût d'une FIV, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait mettre.
Ouais. Bon, bah, tu me dis, bon, après, c'est un prix, mais c'est autorisé, j'ai envie de dire. Et je voilà. comprends pas qu'ils ne le fassent pas en France, surtout que, bon, ils ont quand même de la thune à se faire derrière, mine de rien. Donc,
justement, ils sont intérêt. Parce qu'ils voient que le côté financier, voilà, de vendre son corps, alors que c'est pas du tout ça. Ici, c'est super bien encadré.
C'est, comment voilà, ça de vendre son corps,
parce que pour eux c'est la monétisation de l'enfant, tu vois, la GPA aussi elle rentre là-dedans. Bon, là du coup ils passent la loi que pour la PMA, mais voilà, c'est pour eux la science, ça ne fonctionne pas pour ça, mais bon, ça se débloque, et je suis vraiment heureuse, même si pour nous on n'aura plus recours en France, mais vraiment pour les générations futures c'est énorme que ça puisse se débloquer de ce côté-là.
Enfin, on arrive quand même à 2000 2020 quoi.
Oui, non mais je pense de tout le temps, et voilà, et que l'adoption soit encore difficile aussi pour les couples homo, ça je comprends pas non plus. Alors on a le droit de se marier mais pas vraiment avoir d'enfants.
Oh, le livret de famille, non mais c'est... Non,
je te raconte pas.
Parce que attends, du coup t'en as un pour votre mariage, t'en as un pour Camille avec les jumeaux et t'en as un pour toi avec Evan.
Grosso modo,
t'as trois livrets de famille.
Grosso modo, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que nous on n'a pas décidé de les déclarer encore. Enfin, on est juste en cours en fait de les déclarer en France, de faire leur acte de naissance.
Oui, leur passeport. Mais t'es en plein dans la postille.
Ça. Oui, oh oui. Oh oui.
Ah, purée. Ah, je te souhaite vraiment. Bah écoute, ce que je peux te souhaiter pour la suite, que tu obtiennes ton apostille.
Non, ça y est, on l'a eu, on a enfin obtenu le passeport pour Evan. On est en cours pour les jumeaux. Et à côté de ça, on a fait notre demande pour la transcription de l'acte de naissance, et donc qui va nous donner effectivement des livrets de famille par mère biologique avec chaque enfant, du coup. Donc c'est bien moche, hein. Merci à la française.
Ah, oh, bah j'espère vraiment que ça va évoluer de manière positive en France, hein.
Ouais, j'espère.
Parce qu'il serait temps.
Effectivement.
Si on a quand même eu 4 ans de Trump, ils peuvent bien mettre en place une loi pour les pour la communauté LGBT, quoi. Donc, ouais. Oh, purée. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Est-ce qu'on te souhaite de déménager dans un pays qui est un petit peu moins rouge et un petit peu plus... Est-ce qu'on te souhaite un déménagement en Géorgie ?
Ah oui, ça, non mais bah, la Géorgie est aussi très rouge, mais là enfin elle est passée bleue.
Elle est passée bleue, ah, ouais.
C'est génial, ouais, c'est absolument génial. Non, la Californie nous tourne vraiment vraiment bien, on n'y a pas été assez longtemps pour voilà, se rendre compte comment la vie de tous les jours y est, mais dans un futur, c'est un peu ce qu'on s'imaginait d'y aller.
Puis t'as plein d'options quand même, parce que bon, on a San Francisco, mais bon, qu'on se le dise, c'est hors de prix. Mm-hmm. Et historiquement, ok, qui était quand même le cœur de la communauté LGBT, mais Los Angeles, t'as quand même une très très belle communauté aussi, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Je sais, on peut être neighbors.
Oui. J'aimerais bien. C'est dans nos plans. Après, on voudrait aller voir plus longtemps, voilà, si ça nous plaît vraiment dans la vie de tous les jours, mais je pense que oui.
Ouais. Oui, ben voilà, et t'auras moins de pluie, je veux dire, et t'as quand même toujours Disney, donc tu gagnes.
C'est pas faux.
C'est juste que tu te prends 3 heures de plus, mais ça les vaut.
Oui, oui, non, c'est vrai que c'est vraiment une option qu'on a en tête. Mais on a envie, c'est vrai qu'on a envie d'autre chose. Mais bon, bah, tu sais, quand t'as les enfants en bas âge et c'est un peu dur de se projeter. Maintenant, en fait, on est un peu en mode survie. Du coup, on attend de dépasser ce cap pour se projeter sur d'autres projets.
Non, mais en soi, moi, je te souhaite vraiment de déménager parce que t'as quand même Trump qui va revenir du coup en Floride.
Parce que c'est ce que mes parents me disent aussi. Oui.
Allez, c'est un beau cadeau. Oh, purée. Non, mais donc, du coup, je te souhaite vraiment de partir et vite. Non, bah écoute, Olivier, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il va aider au moins des familles homoparentales ou même des familles de manière générale à avoir un petit peu plus de renseignements sur ce que peuvent vivre d'autres familles de leur côté. Donc, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir partagé ton expérience.
Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçue, c'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !